Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Nous sommes 4 jours après l'attentat au couteau à Paris. Beaucoup de questions relatives évidemment à cet acte terroriste. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles des 4 blessés? Ils sont hors de danger, on le sait, mais ils sont toujours hospitalisés en l'occurrence?
L'un d'entre eux est toujours hospitalisé. Moi, je suis allé le voir à 2 reprises. Il s'agit d'un touriste étranger, luxembourgeois, d'origine chinoise. Il venait attendre à Paris 2 de ses amis chinois. Ils étaient arrivés à 4 heures de l'après-midi. Et donc, il m'a raconté son histoire. Il s'était en fait perdu dans le quartier. Hélas, pour eux, ils ont fait la rencontre du terroriste.
Et il est blessé gravement, toujours hospitalisé?
Non, il a été opéré 2 fois. Et aujourd'hui, il va bien. Et donc, il va pouvoir sortir d'ici 80 jours de l'hôpital.
Et les 3 autres ont quitté l'hôpital?
Et les 3 autres ont quitté l'hôpital. Il y avait ces 2 touristes chinois et une femme qui avait été légèrement blessée.
On a entendu dès hier soir, Gérard Collomb, sur RTL, le témoignage d'un des policiers membres de Police Secours qui s'est retrouvé 5 minutes après l'appel d'un témoin face à un terroriste agressif. C'est une mission maintenant capitale qui attend la police à tout instant, toute la police, quelle que soit la police.
Oui, bien sûr, qui attend à la fois la police, mais en même temps la gendarmerie. Vous voyez, on est dans des territoires urbain avec cet attentat, mais on peut être à Trèbes, par exemple, dans des territoires qui sont des territoires ruraux gérés par la gendarmerie nationale. Donc cela veut dire que il n'y a plus d'endroit où on puisse dire il n'y aura pas d'attentat.
Et au passage, est-ce que vous allez distinguer d'une façon ou d'une autre ces 3 policiers qui, encore une fois, appelés dans le cadre d'une mission police secours, ont fait en sorte en quelques minutes de neutraliser le terroriste?
Bien sûr, je pense qu'ils seront distingués. Moi, je les ai vus le soir de l'attentat. Je les ai vus à l'hôpital. J'ai discuté en particulier avec le jeune qui était un ancien ADS et qui était gardien de la paix, ADS. Simplement, c'était un agent de sécurité, et qui était gardien de la paix depuis 1 an seulement, et qui a eu le bon geste face à un terrorisme qui allait le tuer lui aussi.
Donc distinguer une promotion,
absolument.
Une cérémonie, c'est ce que vous allez préparer pour les remercier, bien sûr, de leur action. Le terroriste, Gérard Collomb, jamais condamné, jamais fait parler de lui, sauf qu'il était fiché S depuis sa terminale en 2016, la polémique est repartie, ce jeune type a donc été repéré, mais comme on dit dans ces cas-là, rien ne présageait le passage à l'acte. Qu'est-ce qu'il fallait attendre pour qu'il soit davantage surveillé? Comme disent ceux qui réclament justement une surveillance accrue ou même une privation de liberté de ces fichiers S, il vous fallait quoi? Un faire-part?
Alors si vous voulez, d'abord il faut bien comprendre ce qu'est un fichier S. Un fichier S, c'est un fichier qui permet de signaler la conduite qu'un agent de police ou bien qu'un agent au contrôle des frontières doit pouvoir effectuer. Alors des fiches S, il y en a beaucoup. Je vais vous en lire 2, comme ça on comprendra ce que sont les fiches S. Par exemple, je prends la fiche S2. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche S2? C'est conduite à tenir, ne pas étirer l'attention, signaler passage, relever provenance, destination, moyen de transport et signaler accompagnant.
Qu'est-ce que vous lisez en fait?
Ce sont des conduites à tenir.
Les conduites
ne sont pas effectivement ce qui caractérise la dangerosité d'un individu, mais ça sert à signaler aux agents des forces publiques quelle conduite on doit tenir lorsqu'on les rencontre.
Voilà. Alors, pouvez-vous nous redire, par exemple, cette fiche S2?
Celle-ci, c'est ne pas attirer l'attention.
Sur ce type, non?
Signaler passage.
Ouais.
Relever provenance, destination, moyen de transport et signaler accompagnant. C'est tout. Point.
Ouais.
Vous en avez une autre, ouais, un peu plus élaborée. Fiche S13. Vérifier la situation de l'intéressé et des personnes l'accompagnant. Signaler le passage en douane en vue d'une éventuelle visite des personnes, des bagages et des véhicules.
Chaque numéro correspond à une personne qui a été repérée.
Elle correspond au classement de la personne.
Ouais.
Et ce qu'il faut pratiquer comme type de contrôle lorsqu'on le contrôle. Ouais. Et donc, des fiches S, vous en avez 26 000. Donc, évidemment, pour celles et ceux qui pensent qu'on peut mettre 26 000 personnes dans une prison, c'est un peu difficile à pouvoir organiser.
À organiser, d'accord, mais ça veut dire, Gérard Collomb, que tant que la personne fichée S, alors vous avez dit, il y a différents types de signalement et de surveillance, mais tant qu'une personne fichée S pour radicalisation ne se distingue par aucun comportement anormal, on ne peut pas réellement l'empêcher de passer à l'acte.
Alors d'abord, toutes les fiches S ne sont pas radicalisation.
Non, mais
ce qui est radicalisation, c'est FSPRT, et vous en avez 20 000. Dont environ 16 000 qui sont pris en compte, c'est-à-dire qui sont suivis réellement.
Oui, et alors ?
Et alors, effectivement, nous les suivons. Mais souvent, vous voyez, le véritable problème dans la menace à laquelle on a à faire face aujourd'hui, c'est qu'avant, du temps de Daesh, vous aviez un certain nombre de réseaux qui étaient structurés. Mmh. Et donc, c'était plus facile de suivre. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on appelait par le passé le haut du spectre qui passe à l'action, c'est-à-dire celles et ceux qu'on suivait de plus près. C'est souvent le bas du spectre, un certain nombre d'individus qui, parce qu'ils ont entendu la propagande de Daesh, se mettent finalement à passer à l'acte,
mais
avec des moyens très minimes.
Tout,
vous voyez, celui-là, par exemple, il passe à l'acte avec le couteau de cuisine de sa mère.
Mais est-ce que vous dites que d'une certaine façon, voilà, c'est grandeur et servitude de la démocratie, le droit doit primer sur la prévention des risques, en l'occurrence, on est assez désarmé face à ces passages à l'acte, dans la mesure où on ne peut pas les surveiller davantage, faute de moyens?
Non, on essaye, si vous voulez, de réarmer. D'abord, on a augmenté considérablement donc le nombre des personnes qui travaillent dans les services de renseignement. Je vous rappelle que sur cette année, le budget de la DGSI a augmenté de 17%. Et puis, en plus, maintenant, on élabore un certain nombre de méthodes nouvelles pour pouvoir mieux suivre un certain nombre de personnes.
Bon, question pratique, Gérard Collomb. Abdoul Hakim, il a 20 ans. Il est strasbourgeois, c'est l'ami du terroriste qui est en garde à vue depuis dimanche soir, pour savoir s'il est complice. Si sa complicité n'est pas établie, si rien ne prouve qu'il est potentiellement dangereux, jeudi soir, c'est le maximum de la garde à vue, il ressort.
Oui, mais cela veut dire, si vous voulez, que ce n'est pas parce que vous ressortez à un moment donné que vous ne continuez pas à être suivi. Vous voyez, à partir de cette affaire, on est en train de suivre l'entourage. Pour vous donner le profil, par exemple, du terroriste, c'était un profil finalement relativement simple parce que c'était quelqu'un d'assez seul. On a compté 9 amis autour de lui. C'est quelqu'un qui n'avait pas de relation avec des jeunes femmes, qui étaient d'une vie extrêmement fruste, repliée sur lui-même. Mais on va essayer de remonter à partir, si vous voulez, des renseignements qu'on avait par le passé, qu'on a gardés, à partir des renseignements de son ami. On est en train de remonter. Par exemple, sur la génération d'avant, on a déjà vu, par exemple, que le père, c'était quelqu'un qui s'était battu à Grozny lors des batailles entre Russes et Tchétchènes.
Ouais. Et alors, du coup, vous remontez, et pour l'enquête, ça signifie quoi?
L'enquête, ça permet, si vous voulez, de démanteler un certain nombre de réseaux qui sont autour, effectivement, de cette affaire.
Vous n'avez aucun élément particulier sur Abdoul Hakim, sur sa complicité aujourd'hui?
On ne sait pas s'il est complice, on le saura peut-être, parce qu'on va essayer de voir s'ils se sont passés des coups de téléphone lors de son...
Il y a 7 téléphones portables qui ont été retrouvés chez lui, il en manque un, le plus utilisé.
Voilà.
Vous l'avez retrouvé?
Ce téléphone portable, vraisemblablement, il l'a jeté. Il a indiqué lui-même aux enquêteurs qu'il était allé en salle des sports et que c'était là qu'il l'avait perdu. En fait, il l'a jeté sans doute le matin. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone pour forcément le faire parler.
Donc on verra si jeudi soir il ressort.
Donc
et
vous verrez qu'il y aura une coopération qui sera faite entre les services et que vraisemblablement on pourra trouver un certain nombre d'indications
qui l'empêcheront de sortir.
qui empêcheront de sortir, ou en tout cas qui feront que l'on sache exactement les connexions qu'il y avait entre les deux personnes.
L'islamisme radical, genre que l'on nourrit la violence des terroristes, le JDD, dimanche, c'est ça, une sur l'expansionnisme salafiste, et parlait d'un quartier à la Verrière, en Yvelines, mis en coupe réglée par l'islamisme salafiste. Vous confirmez, ça existe ?
Oui, c'est vrai que dans nos villes, aujourd'hui, il y a un certain nombre de quartiers qui, parce qu'ils se sont paupérisés, qu'ils se sont ghettoisés, ont été pris en main par un certain nombre de groupes extrémistes et donc d'un salafisme radical. Alors pour moi, il faut mener une action de fond. D'abord, faire en sorte qu'au sein de la communauté musulmane, celles et ceux qui représentent un islam compatible avec la République puisse progresser et finalement l'emporter. C'est un véritable choc culturel qu'il doit y avoir. Et puis faire en sorte que l'on ferme un certain nombre de mosquées. On en a fermé une il y a 15 jours à Marseille, par exemple, où on a envoyé l'imam en Algérie. Donc c'est ce travail qu'il faut continuer.
C'est la dernière mosquée que vous avez fait fermer. C'est celle de Marseille, il y a 15 jours. Et il n'y en a pas de nouvelles. Ça fait combien depuis la fin de l'état d'urgence que vous avez fermé?
Il y en a eu quand même quelques-unes, sans doute moins de 5, parce qu'il faut beaucoup de précautions pour fermer une mosquée. Mais croyez-moi, par exemple, il y a toute une série de librairies qui vendaient du salafisme, des livres salafistes sur lesquels nous sommes en train de travailler, et certaines que nous avons fait fermer.
Gérard Collomb, il nous reste très peu de temps. Vous serez à Lyon tout à l'heure ?
Oui, je serai à Lyon.
Vous allez voir, faire une revue des troupes et vous restez pour le match.
Je resterai pour le match, OM, parce que les violences, elles peuvent se produire avant, mais elles peuvent se produire après.
De Madrid. En un mot, quelle est la principale menace pour ce match en termes de sécurité ?
Si vous voulez, c'est qu'on avait vu un certain nombre de vidéos qui montraient que ce match pouvait être extrêmement tendu. Depuis, moi, j'ai appelé le président de Marseille, essayé de faire passer les messages, et il semble que l'on puisse faire en sorte que ce soir, les choses soient appréhendées de la bonne manière, parce qu'à mon avis, il y a moins de tension chez les supporters, et puis ensuite, ils ne vont pas aller au centre-ville, ils vont aller directement au stade.
Encore deux questions, très vite. Une information que les automobilistes vont avoir à l'esprit, selon le Canard enchaîné, la légalité des voitures radars banalisées confiées à des boîtes privées serait mise en cause par une note du ministère de l'Intérieur il y a un an, et pourtant l'expérience a commencé en Normandie il y a quelques semaines. Vous avez connaissance de cette note ?
Non, alors si vous voulez parler effectivement
du ministère de l'Intérieur,
de l'expérimentation qu'on a faite, on a fait effectivement une expérimentation. Après, il faut voir si effectivement elle est généralisable à tout le territoire.
C'est une autre question. Elle est jugée illégale, cette expérimentation.
Si vous voulez, nous avons...
Vous l'avez faite malgré l'illégalité ?
Non, l'expérimentation était possible. Ensuite, c'est de savoir si effectivement l'extension est possible. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, il y a plusieurs services, et il y a un service en particulier qui est le service des lois, qui nous dit chaque fois que nous menons une action, si nous sommes dans la légalité ou pas. Par exemple, c'est le service qui nous aide à pouvoir rédiger les textes de loi pour que, effectivement, ce soit des textes de loi qui n'enfreignent pas la législation actuelle.
Bon, on n'a pas tout compris, mais en tout cas, dernière question.
C'est
une
rumeur. Clarté parfaite.
Une rumeur a couru, Gérard Collomb, c'est ma dernière question, la semaine dernière, selon laquelle vous auriez présenté votre démission. Vous l'avez fait ?
Non.
Vous ne l'avez jamais fait, d'ailleurs, depuis que vous êtes...
Non, j'avais dit, si vous voulez, lors de la loi SILT, vous savez, c'était la première loi que j'ai fait passer sur le terrorisme, que c'était, pour moi, une loi qu'on devait faire passer de manière absolue. Et j'avais dit à l'époque aux députés que si vous voulez pas voter cette loi, moi, je ne pouvais plus être ministre de l'Intérieur, parce qu'alors, pour le coup, nos concitoyens n'auraient plus de protection face au terrorisme.
Vous êtes Place Beauvau, ministre de l'Intérieur, pour longtemps ? Votre horizon, c'est quoi ? La réélection d'Emmanuel Macron en 2022 ?
Oui, c'est les 10 ans qui viennent.
Les 10 ans qui viennent. Donc, Gérard Collomb qui est prêt à refaire campagne pour Emmanuel Macron en 2022. Merci à vous d'avoir été ce matin sur RTL en attendant.
Et l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.